Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième entretien dans cette série des clés pour vivre. Je reçois au micro Alex et Maude Loriot-Prévost. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nathalie.
Donc merci d'être au poste, fidèle au poste. Auteur de ce livre qui vient de paraître, Nous couples qui sommes sur Terre. On y retrouve le témoignage de 12 couples. Voilà, on n'en dit pas plus. On laisse aux auditeurs devenir peut-être lecteurs. Et puis c'est une idée peut-être cadeau aussi pour offrir à des tout jeunes couples qui débutent. Et puis ceux qui ont peut-être voire 20 ans, 30 ans, voire 40 ans aussi de mariage. C'est quoi au fond, j'avais pas prévu cette question pour démarrer cette deuxième rencontre. C'est quoi la grâce même du couple, au cœur même de ce sacrement de mariage que vous avez reçu depuis plus de 40 ans. Maude, peut-être.
Je dirais la grâce du sacrement de mariage, c'est la grâce d'arriver à nous aimer jusqu'à la fin. Et dans un amour en crescendo. Pas un amour qui dégringole et qui devient fade et insipide. Donc, en fait, notre expérience nous a montré très vite qu'à cause de nos caractères si différents, qu'à cause de nos façons de fonctionner, nos univers culturels tellement différents, sans la grâce du Christ, c'était absolument impossible de s'aimer. On se faisait trop mal. Et on ne se comprenait pas. Et on n'arrivait pas à... On était très, très en lien spirituellement et tout ça. Mais humainement, en fait, tout était compliqué. Et du coup, il a fallu qu'on se rende compte que sans cette grâce de Dieu, il était impossible d'accomplir ce qu'on désirait le plus, en fait. Et c'est ça, en fait, l'expérience fondatrice de la foi dans le mariage. Et ce qu'a repris le pape François bien plus tard... En disant les époux chrétiens se marient pas parce que c'est des gens parfaits, ils se marient parce qu'ils ont besoin de la grâce. Et en fait, nous, ce besoin, on l'a expérimenté au tout début dans notre cheminement de fiançailles, qui a été long, laborieux. Ça a duré 4 années. Et de fait, c'était pas 4 années de trop, parce que ça nous a permis d'expérimenter que sans l'aide du Christ, en fait, on n'arriverait pas. Et qu'il valait mieux arrêter tout de suite les frais parce qu'on allait se faire trop mal.
Quoi. Alors j'ai presque envie de rebondir sur les fiançailles et surtout le temps, la durée. 4 ans de fiançailles, c'est plus à la mode, permettez-moi, Alex.
Oui, mais en tout cas, ça a bien été le temps d'une forme d'accouchement. Alors bon, il y a des préparations de mariage qui durent 3 mois ou 6 mois ou 9 mois ou 12 mois. Nous, il nous a fallu 4 ans. C'est vrai qu'on a de fortes personnalités. On avait des contextes aussi familiaux qui n'étaient pas évidents, en tout cas sur tel ou tel aspect. Et puis, il a fallu aussi nous apprivoiser l'un l'autre. Et notamment, ce qu'on évoque souvent, c'est que c'est le Seigneur qui nous avait rassemblés. Mais par 3 fois avant le mariage, on s'est rendu compte que voilà, nos caractères, nos histoires, nos contextes familiaux, les oppositions extérieures... faisait que ce n'était pas possible. Donc, c'est le Seigneur qui nous avait réunis. Et donc, c'est devant le Seigneur qu'on allait se séparer. Et ces 3 moments de prière que nous avons vécu ensemble, ça a été les 3 grandes étapes dans le consentement au oui dans le mariage. Et donc, on a fait l'expérience. Après, on le découvrira, parce qu'on est vraiment même témoin et prédicateur de cet évangile du mariage, l'évangile du salut du Christ dans le mariage. On a fait 3 fois, avant même d'être unis dans le sacrement de mariage, on a fait 3 fois l'expérience que Jésus sauve le mariage. Il nous a sauvés. Et donc c'est lui. Et après, on découvrira une parole sur laquelle on revient très souvent, qui nous a beaucoup marqué et dont on se nourrit énormément, d'abord pour nous-mêmes, puis dans nos prédications. C'est que quand Jésus, dans Matthieu 19, dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ça veut dire que Jésus lui-même dit c'est Dieu qui unit les époux. Donc ça veut dire c'est Dieu qui est l'acteur de l'unité conjugale. C'est Dieu qui est l'acteur de l'amour et de l'intensité, de la pureté de l'amour conjugal. Donc l'important dans le mariage, c'est d'accueillir la grâce de Dieu parce que c'est lui qui va agir, c'est lui qui va intensifier, qui va purifier, qui va convertir cette relation que nous avons. C'est pour ça que je dirais même, on est, enfin en tout cas on se prétend évangélisateur du mariage, mais évangéliser le mariage c'est presque égoïste. Pourquoi ? Parce que plus j'accueille la grâce de Christ dans le mariage, plus je purifie et j'intensifie cette relation conjugale. Donc plus je fais du bien à mon couple.
Vous écrivez, nous étions comme déchirés, écartelés, partagés à trois reprises avant notre mariage. Nous avons décidé d'y renoncer. Nous pensions que c'était la voie de la fidélité, mais au fond de nous, quelque chose résistait, comme si cet amour portait une promesse que nous ne pouvions pas trahir. Voilà, donc je reprends un peu cet extrait.
Oui, mais c'est quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, le mariage pour nous, c'était vraiment un appel. Et moi, à chaque fois, intérieurement, j'ai eu la conviction que c'était vraiment avec Alex que le Seigneur me voulait.
Et pas un autre.
Et pas un autre. Très étonnant.
Maud avait fait même une prière dans son cœur. Adolescente et petite fille, elle disait « Je veux que le premier amour de ma vie, ça soit le bon et que ça soit à 18 ans. »
C'est exactement ce qui s'est passé.
Et a répondu à la...
Et toi, tu avais fait un pari encore plus saugrenu, puisque tu avais demandé que ta femme, ta future femme, ait le même nombre de lettres que ton prénom.
Ça, c'est
et en plus, c'était le cas. Non, mais ça, c'est des petits clins d'œil amusants.
Entre nous, il n'y a que quelques auditeurs qui vous écoutent. Vous êtes encore à faire des paris avec le bon Dieu, Maud et Alex.
Ah, bien sûr, on ne s'arrête pas. Il a beaucoup d'humour et on apprend à apprécier l'humour de Dieu. Donc, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était aussi tragique pour nous parce que c'était écarteler entre un sentiment intérieur, une certitude que vraiment Dieu nous voulait ensemble. Et en plus, on a commencé à avoir des fruits quand on était ensemble et qu'on prenait en charge des camarades qui n'allaient pas bien, etc. Il y avait des grâces, des choses étonnantes se sont produites. Des personnes sont venues à la foi, mais malgré nous. Donc c'était impressionnant, on se disait, mais c'est quand même étonnant que non seulement on a cette certitude intérieure, ensuite c'est confirmé à chaque fois qu'on a des difficultés, et en plus ça porte de fruits notre amour. Donc avec ça, mais qui on est pour dire au Seigneur, écoute, ton plan il est un peu naze quoi.
On entend aussi beaucoup, vous avez grandi avec ces catéchèses aussi de Jean-Paul II. Elles ont été décisives pour vous, pour votre cheminement et puis la suite. Et puis la suite qui est au fond la mission. Hein.
Bah, c'est un peu comme pour nous comme le voile qui est déchiré. Puisque pour nous, il y avait un mur devant nous. Le mariage est une sous-vocation et on voulait tout donner à Jésus. Donc ça ne pouvait pas être une sous-vocation. Et Jean-Paul II, de par la théologie qu'il a développée du mariage, du corps, de la sexualité, etc., mais il a vraiment il a construit une théologie catholique du mariage. Yves Semaine, qui est grand spécialiste de la théologie du corps, de la théologie de Jean-Paul II, dit, voilà, il y a un avant et un après ces catéchèses. Avant, il y avait la préhistoire de la théologie du mariage, dit-il. Voilà, et donc c'est extraordinaire pour nous, c'est un cadeau extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'il a donné ses catéchèses dans les 4 ans de nos fiançailles. Il a commencé au moment où on s'est rencontrés et il l'a fini au moment de notre mariage.
Le temps qu'il y ait les traductions.
Attends, les traductions, c'est un peu décalé, etc. Et on s'est mariés en 83 et il a fini ses catéchèses en 83 ou en 84.
Et pour la petite histoire, comme c'était vraiment notre père, puisque c'est lui qui nous a quelque part enfantés à cette vérité théologique qu'on n'avait pas du tout envisagée, eh bien, à Rome, lors d'un stage, j'ai dû animer une messe qu'on m'a demandé de venir, parce que j'étais flûtiste, donc j'ai animé la messe et Jean-Paul II est venu me saluer à la fin pour me remercier de cette animation. Et je lui ai dit, c'est à cause de vous qu'on se marie. Il est parti d'un grand éclat de rire et il m'a dit, venez demain au Vatican, je vous donnerai une bénédiction.
C'est pour ça que nous avons reçu une bénédiction particulière du pape lors de notre célébration de mariage.
On sent, permettez-moi, mais une forte paternité de celui qui est devenu depuis Saint Jean-Paul II.
Ah, c'est
paternité
c'est
dans
un...
votre couple,
ah, c'est
et
étonnant.
Couple missionnaire, d'où la fécondité, on va en parler bien sûr, puisqu'on va se retrouver.
Notre ambition, c'est d'être missionnaire du mariage, d'être dans l'évangélisation du mariage. Et Jean-Paul II, c'est le père de la théologie du mariage, je dirais, moderne, et c'est le père de la nouvelle évangélisation. Et nous sommes ses enfants sur ces deux points. Et ces deux aspects absolument majeurs chez Jean-Paul II. Et donc, après, on a retrouvé ça chez Benoît XVI et chez François, qui ont continué cette dynamique-là. Mais vraiment, on est vraiment la génération Jean-Paul II au cube.
Au ciel, on sera content de nous jeter dans ses bras.
Si vous deviez garder une parole forte de celui qui fut Jean-Paul II durant ces 27 ans de pontificat, et puis avec votre histoire.
Il n'y a rien d'original, il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que
la phrase a libéré, pour vous.
Il a libéré une énergie spirituelle, vocationnelle et apostolique en nous. Et donc le terme « n'ayez pas peur », c'est peut-être une déflagration où à un moment on a dépassé nos limites constamment dans nos vies. Enfin, c'est plein de
oui,
différentes
étapes.
Oui,
je me souviens aussi quand il nous a dit « France, que tu fais de ton baptême ?» Nous, à ce moment-là, on commençait notre engagement missionnaire. Ça nous a boosté. On s'est dit « Oui, là, il y a quelque chose... Il est prophétique. Il est en train d'annoncer ce qui va se passer en France. » Et de fait, des années plus tard, en rencontrant le pape François, il nous a confirmé en disant « Il n'y a qu'en France qu'il y a ce foisonnement d'initiatives. » Il dit « C'est vraiment un signe que l'Esprit-Saint s'est emparé de cette nation. » Or, nous, à l'époque, c'est ce que le pape Jean-Paul II disait. Et, enfin, à nous inviter à vivre cette grâce-là. Donc, c'est très, très étonnant, ce parcours qui est de notre histoire, en fait, qui s'est calqué sur ces saints papes, parce qu'il y a Benoît XVI, au passage, qui a été aussi absolument extraordinaire. Et donc, voilà, on s'est nourri de tous ces papes.
Et voilà, et vous êtes d'église, donc Alex et Maud Loriot-Prévost, je vous propose de vous retrouver, parce qu'on vous écouterait encore. C'est une joie aussi d'entendre, il est bon d'entendre aussi des témoignages de couples, des couples missionnaires et des couples fidèles dans la durée. Voilà, donc on veut tout savoir cette semaine, quel est un peu votre secret, parce qu'il faut être déterminé, il faut de l'endurance, il faut certainement aussi de la persévérance avec comme un ingrédients, certainement, mais vous nous le direz dans les jours qui vont suivre. La prière et beaucoup de prières individuelles et en couple. À demain.
À demain.
À demain.